Voilà, donc on est avec Bird. Comment ça va, Bird ?
Ça va très bien.
Alors, c'est Bird, c'est ton pseudo, bien sûr. Tu le tiens d'ailleurs de la traduction de oiseau, parce que bird, bon, oiseau en anglais, j'explique pas pour tout le monde. Comme d'ailleurs Vogel, oiseau en allemand, qui est ton nom de famille, parce que si je me trompe pas, ton nom complet c'est Stéphane Vogel.
Absolument.
Absolument. Tu es originaire de Rouen et tu es d'origine américo-italienne, donc rien à voir avec l'allemand.
Oh, ça remonte à bien plus longtemps que ça en fait, mais effectivement, ouais, un nom allemand avec un père américain, une mère italienne, j'ai grandi en France, enfin,
oh, voilà. C'est multiculturel. Avec toi, la musique s'envole, du coup elle est mélodique, un peu comme un oiseau voyageur, disais-tu. Cela fait 10 ans que tu joues de l'électro, mais tu es passé par plein de phases avant d'arriver à ça, notamment le hip-hop. Parmi tes inspirations, on retrouve Ento, Tilacine et surtout les Pink Floyd. Tu es aussi producteur et tu as commencé le live il n'y a pas très longtemps, je pense avec les Transmusicales 2022.
Absolument.
C'était déjà il y a un an et demi, oui. Et aujourd'hui, donc, tu arrives à vivre de ta musique et notamment avec ton dernier EP qui sort, Alter Echo, sorti en février 2024 et inspiré par la mer et les côtes finistériennes, plus particulièrement, hélas, très précis, Crozon.
Ouais.
Quel rapport avec qu'est-ce qu'il y a à Crozon ?
Qu'est-ce qu'il y a à Crozon ? Ben, en fait, je connaissais pas trop le Finistère en vrai, mais je m'étais déjà pas mal baladé en Bretagne. Étant normand, je suis obligé d'aller voir ce qui se passe chez les voisins. Mais en fait, c'est par hasard, c'est le Vivien qui travaille au label où je suis actuellement, Yotanka Records, qui m'a invité à Crozon, en fait, parce que lui, il y va pour surfer. Et je me suis laissé embarquer dans cette aventure un peu marrante de surf, découvrir le Finistère, trop bien, en fait. Et c'est un lieu qui m'a beaucoup inspiré, c'est un lieu où j'ai enregistré plein de sons d'eau, de mer, etc. Et ça a donné lieu à cette EP, Alter Echo.
Ok, t'as pris ton enregistreur, tu t'es baladé dans Crozon comme ça avec... En
exactement.
Prenant des sons. Ok,
charmant. Ouais, carrément.
Et du coup, pendant combien de temps est-ce que tu as travaillé sur cette EP ?
Bah, à Crozon, je suis resté. Je suis resté une semaine à Crozon. Après, je me suis baladé un petit peu partout. Je suis venu découvrir Brest et puis d'autres endroits de Bretagne. Je dirais qu'au total, j'ai dû passer 3 semaines à enregistrer des sons. Après, faire l'EP en lui-même, plusieurs mois, j'en ai fait une grosse partie chez moi aussi, en fait. C'est-à-dire que toute la réflexion, elle se fait en extérieur, où j'enregistre des sons, mais je commence à créer des mélodies. Ensuite, le gros de la production, je le fais à la maison avec mes synthés, en fait, évidemment.
Et alors, on a pu faire nos petites recherches, et tu as fait un live en plein musée du Louvre.
Oui.
Est-ce que c'est exact ? Est-ce que tu confirmes la chose ?
Alors, c'est presque exact. C'est-à-dire, enfin, comment dire ? C'est pas faux.
Ok.
C'est techniquement un live. En fait, c'était une série de lives.
Okay.
C'était 9 lives que je faisais dans les couloirs du musée du Louvre. En fait, le Louvre m'avait demandé de composer 6 morceaux pour 6 tableaux de leur collection permanente. Et donc, j'avais fait déjà un premier travail de composition de musique. Et ensuite, alors, c'est un live techniquement, mais ils appellent ça plutôt une visite guidée. C'est-à-dire que je me baladais dans le Louvre avec un chariot sur roulette sur lequel j'avais posé mes synthés et mes machines. Et je jouais chaque morceau devant chaque tableau avec un petit groupe de visiteurs. Et ensuite, on discutait de ça, en fait, du rapport entre la musique et l'image figée, en fait. Donc,
Ok, ça doit être vachement intéressant, ça.
Ah, c'est super intéressant, parce que j'étais obligé de composer de la musique pour quelque chose de fixe. Donc, la musique, il y a quand même une notion de temporalité, alors que l'image, il n'y en a pas. Et donc, il fallait raconter l'histoire de ce que je... Enfin, c'est comme ça que je l'ai abordé, en tout cas. Je racontais l'histoire de ce que je voyais dans le tableau. Donc, c'était effectivement hyper intéressant. Et surtout, ce qui était chouette, c'est que chaque visiteur qui m'accompagnait voyait des choses différentes, en fait. Donc tout le monde avait des opinions différentes. Enfin, c'était trop beau.
Il y avait des tableaux assez connus, ou enfin, est-ce qu'il y avait des grosses pièces du Louvre, ou c'était vraiment des tableaux qui sont parfois un peu... Parce qu'au Louvre, il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'était parfois des tableaux qu'on oublie de mettre en valeur ?
Alors, c'est tous des tableaux connus. Après, c'est pas les plus célèbres du Louvre, justement, parce que pour éviter de transformer le musée en dance floor, parce que, bon, quand même, on faisait de la musique électro, ils ont sélectionné une aile qui était... un peu moins rempli que les autres, donc c'était le 2e étage de l'aile Richelieu avec les grands maîtres hollandais. Donc je pense que le tableau le plus connu de la visite, c'était le portrait de Don Francisco de Mancada de Van Dyck, qui est un guerrier sur un cheval blanc fier et droit, et je pense que c'est le tableau le plus connu de la visite, ouais.
Et est-ce que tu as senti un avant-après dans ta manière de faire de la musique après cette expérience-là, du coup ces 9 lives dans le Louvre ?
Carrément, c'est une super question, parce que complètement oui, en fait, au sens où avant de faire ce travail avec le Louvre, je composais selon mes influences musicales et je faisais des morceaux les uns après les autres, et ensuite j'essayais de trouver une cohérence pour les assembler dans un EP, en fait. et après le Louvre, où justement j'ai été contraint à ce que je voyais dans une image pour créer de la musique, et ben j'ai commencé à faire ça en fait. Et le nouvel EP Alter Echo, je l'ai fait comme ça, c'est-à-dire que j'ai d'abord imaginé une histoire sur 7 morceaux, et ensuite j'ai créé les morceaux à la suite en suivant cette histoire. Donc c'est une plongée sous-marine qui remonte après. Et je l'ai vraiment envisagé comme ça, donc carrément, c'est très drôle, mais absolument.
Je le sentais venir. Et où est-ce qu'on peut retrouver, est-ce qu'on peut réécouter ces sons, justement, ces mix-là dans le Louvre, ou alors c'était éphémère et c'était impossible de les retrouver?
Alors, la visite guidée était éphémère, puisque ça c'est fini. Par contre, j'ai sorti les morceaux sur les plateformes digitales, Spotify, Deezer, etc. Donc c'est un EP qui s'appelle Nocturne Insolite au Louvre. Et donc tu peux les retrouver en ligne, et il y en a même un que je joue ce soir, tout à l'heure justement. Enfin, retravaillé en mode grosse scène évidemment, mais il y a un des sons justement, Portrait Équestre, celui de Van Dyck là, que je vais jouer ce soir.
Mais tu nous offres une transition parfaite. À quoi va ressembler la soirée de ce soir avec ta musique?
À quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à un spectacle visuel assez intense, parce que je travaille avec un ingé lumière qui est très talentueux et qui a fait toute une créa très très belle et qui est vraiment calquée sur la musique que je joue. C'est une musique qui, quand tu l'écoutes sur une plateforme et que tu es chez toi posé dans ton canapé, c'est assez planant en fait. Donc tu planes, tu fermes les yeux, tu te détends, c'est cool. Et en live, ça tape beaucoup plus. Justement, je rends le live un peu plus dansant, mais effectivement, surtout oui, dans des lieux comme ici où bon, on est là pour danser quand même et la musique est très forte. Après, je remarque que les gens, souvent, justement, ferment les yeux quand même et se laissent emporter par le truc, malgré des basses assez puissantes et des très très gros kicks.
Moi, je reviens sur un truc, parce que du coup, là, t'as parlé de planer, on a parlé du Louvre, des tableaux, souvent, c'est des trucs qui évoquent un peu l'émotion, tout ça. Et pourtant, toi, dans une interview, je saurais plus la citer, je l'ai perdue, mais tu disais que les émotions, pour toi, elles sont pas forcément choisies avant de composer ta musique, et tu te dis pas, ouais, j'ai telle émotion, je vais me baser là-dessus pour créer une musique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être?
Alors, je sais pas quelle interview t'allais chercher, ouais, parce que j'avoue que je me souviens pas avoir dit ça, donc t'es très très fort, c'est possible. Effectivement, je me base pas sur des émotions du moment pour composer. En fait, moi, je fonctionne plutôt avec des images, en vrai. Je fonctionne avec des images, des souvenirs, des choses comme ça. Puis les émotions, elles viennent après, en fait. Mais c'est pas tant une émotion que je traverse dans le moment présent qui me lance dans une direction, en fait. C'est pas du tout, effectivement.
Pourtant, dans les images et les émotions, je continue toujours en faisant des transitions. Dans certains de tes clips, il y en a qui sont, je dirais pas violents physiquement, mais violents psychologiquement à regarder. Ouais. Est-ce que c'est un choix voulu? Est-ce que c'est le réalisateur du clip qui s'est dit tiens, ça collerait bien? Ou est-ce que c'est vraiment toi qui as apporté cette touche-là?
Quand tu parles de violence, tu parles du clip de Void Loop, tout premier que j'ai sorti. Ouais, bah alors effectivement, moi c'était pas mon idée première, je t'avoue, j'avais pas vu ça. Mais le réalisateur nous a proposé ça et moi j'ai accroché direct parce que je me suis dit c'est le premier single que je sors en fait. Donc faut taper fort, viens, on fait un truc qui est hyper violent et qui défie un peu ce qu'on fait en technomélodique en fait, parce que dans la technomélodique on est souvent sur on plane, les paysages, les trucs comme ça, ce qui est ce que j'imaginais moi initialement. Et en fait quand j'ai vu la proposition du réalisateur, je me suis dit ok, ouais, on va faire ça, c'est bien. Donc ça marche en fait.
Ça fonctionne. Ah là là, sans transition, je sais pas pourquoi j'ai noté mes questions à la suite, des fois il n'y a aucun sens, je m'étale dans mes notes. Tu parlais de qualité la qualité du son que l'on produit est primordiale. Pareil, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus parce que tu es producteur. Des fois certains vont nous dire ouais, on se laisse plus porter, on cherche pas vraiment la qualité, on cherche le ressenti, la musique. Ça revient à la question de qui disait Victor, hein, comment tu composes un peu tes lives.
Est-ce que t'es allé chercher ça dans une interview aussi ou pas?
Eh oui, sur Radio FG.
Celle-là, je l'ai reconnue. En fait, la question que tu poses, elle est intéressante parce que en fait, ça faisait plutôt partie d'une question sur la carrière musicale. Genre, qu'est-ce qui est important pour réussir dans la musique? C'était ça la question. Et j'avais dit, il y a une partie de réseau et de connaissances autour de toi. Et effectivement, une de ces parties-là, c'est la qualité du son, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon sens, faire quelque chose qui tient la route si on n'a pas du son qui sonne, en fait. Donc, je suis d'accord que la qualité du son est hyper importante. Et moi aussi, ça me passionne. Donc, en fait, je travaille énormément ça, évidemment. Donc, pour moi, c'est hyper important d'avoir un son qui est propre, qui sonne bien, etc. Donc, bon, ça, c'est mon esthétique à moi. Après, évidemment un morceau qui est très bien mixé et qui sonne très très bien. S'il est mal composé et pas intéressant et qu'il a pas d'émotion justement et pas d'histoire à raconter, ça marche pas non plus. Donc en réalité, je dirais plutôt l'inverse. Enfin, c'est hyper important d'avoir un bon son, mais avant d'avoir un bon son, faut avoir quand même une intention artistique qui soit belle. Donc d'abord la composition et ensuite une belle production.
Finalement, c'est bien de reprendre les interviews des autres parce que
je mets tout hors contexte. Ouais. Je suis vraiment le journaliste de base.
Alors le pire, c'est si je me contredis.
Oui, mais c'est ça dire, justement, on te confronte à tes propres dires pour voir si tu reviens sur tes mots ou pas.
Et niveau qualité du son, t'as pu faire les balances là dans la piscine?
Ouais, tout à fait.
Au niveau du son, ça, parce que moi, je suis très curieux de ça. Ça rend quoi de faire un DJ set dans une piscine?
Alors, j'ai pas entendu dans la piscine parce que j'étais sur le plateau, okay. Mais sur le plateau, ça sonnait bien. En fait, moi j'étais bien.
Il y avait reverb et tout.
Il y avait pas mal de reverb, ouais. Je suis obligé de mettre assez fort dans mes retours pour m'entendre, mais je pense qu'une fois que la piscine sera remplie, à mon avis, ça va être très bien.
Bon, mais bah on attend ça avec impatience ici à Radio U. Est-ce que peut-être tu voulais ajouter un dernier mot avant de nous quitter et de partir vers le grand bain?
Bah, j'ai hâte de plonger. J'ai hâte de plonger dans le grand bain.
Super occasion de plonger dans le grand bain.
Tu l'as raté, c'est pas grave. Non, quoi dire. Bah merci pour votre accueil et pour ceux qui écoutent et qui sont peut-être à Paris. Je suis en concert le 7 mars au pop-up du label à Paris. Et ensuite, je joue à Nantes au Warehouse le 19 avril. Voilà.
J'espère que vous avez eu le temps de noter les dates parce que nous, on va pas perdre de temps. On va tout de suite écouter Void Loop, justement, on en parlait, de ta propre composition. Allez, Vincent, envoie-nous ça.